Quatrième partie. 1. Les Druedaines. Pour les autres Atani, les gens de Aleth étaient des étrangers qui parlaient une langue étrangère. Et bien qu'unis à eux en commune alliance avec les Eldar, ils demeuraient un peuple à part. Entre eux, ils persistaient à employer leur dialecte propre, et même s'il leur fallut nécessairement apprendre le Sindarin afin de communiquer avec les Eldar et les autres Atani, nombre d'entre eux s'exprimaient avec hésitation dans cette langue, et certains de ceux qui n'allaient que rarement hors des confins de leur bois n'en faisaient jamais usage. Ils n'adoptaient pas volontiers les objets et les coutumes nouvelles, et conservaient maintes pratiques qui paraissaient curieuses aux Eldar et aux autres Atani, qu'ils fréquentaient d'ailleurs peu, sauf en temps de guerre. On les estimait néanmoins comme de loyaux alliés et de redoutables guerriers, bien que les contingents qu'ils envoyaient se battre hors de leurs frontières fussent généralement réduits. Car ils étaient, et jusqu'au bout le demeurèrent, un petit peuple dont le principal souci était de protéger ses propres terres boisées, et ils excellaient dans la guerre en forêt. Et d'ailleurs, même les orques, ayant été spécialement entraînés pour ce type de combat, n'osèrent pendant longtemps franchir leurs frontières. Parmi les étranges rumeurs à leur sujet, on disait que nombre de leurs guerriers étaient des femmes, bien qu'elles ne participassent que rarement aux grandes batailles hors du pays. Une coutume certainement fort ancienne, car Aleth, leur chef, avait été une Amazone renommée qui avait eu pour garde du corps des guerrières triées sur le volet. Mais parmi toutes les coutumes du peuple de Aleth, la plus singulière était la présence parmi eux de gens d'un genre tout autre, que ni les Eldar du Beleriand, ni les autres Atani n'avaient jamais vu auparavant. Ils n'étaient pas très nombreux, quelques centaines peut-être, et vivaient à l'écart, en famille, ou au sein de petites tribus, mais en bonne amitié, comme gens d'une même communauté. Les gens de Aleth leur donnaient le nom de Droug, un mot de leur propre langue. Aux yeux des elfes et des autres hommes, ils n'avaient rien de plaisant dans l'apparence. C'étaient des gens trapus, de petite taille, certains ne faisaient que 4 pieds de haut, et très costauds d'épaule, avec un gros derrière et des jambes courtes mais larges. Et ils avaient de larges visages, avec des yeux profondément enfoncés dans leurs orbites, sous un front lourd et le nez épaté. Et au-dessous de leurs sourcils, il ne leur poussait plus un poil, sauf chez certains d'entre eux, qui arboraient une petite touffe noire au milieu du menton, ce dont ils n'étaient pas peu fiers. Leurs traits étaient d'ordinaire impavides, et leur bouche restait l'élément le plus expressif de leur visage. Et la méfiance de leurs regards était quasiment insaisissable, sinon de très près, car ils avaient des prunelles si noires que la pupille ne se pouvait discerner. Mais elles flambaient rouges lors d'un accès de colère. Et leur voix était profonde et gutturale, mais leur rire surprenait, un rire chaud et ample qui allait cascadant, incitant tous ceux qui l'entendaient, elfes ou hommes, à rire de concert et par pure joyeuseté, sans ombre de malice ou de mépris. Et en période de paix, ils riaient volontiers en travaillant ou s'amusaient tandis que les autres hommes pouvaient chanter. Mais à l'occasion, ils se révélaient d'implacables ennemis, et une fois allumés, leur rouge courroux était lent à refroidir, bien qu'il ne se manifestât que dans la flamme de leurs yeux. Car ils combattaient en silence et n'exultaient pas dans la victoire, même lorsqu'ils avaient triomphé des orques, les seules créatures envers lesquelles ils éprouvaient une haine implacable. Les Eldar les appelaient Druedaines, les comptant au rang d'Atani, et tant que leur peuple perdura, ce furent gens bien-aimés de tous. Hélas, ils avaient la vie brève, et leur nombre allait toujours s'amenuisant. Et dans leur lutte acharnée contre les orques, ils subissaient de lourdes pertes, car les orques les haïssaient tout autant et se faisaient une joie maligne de les capturer et de les torturer. Et lorsque Morgoth, par ses victoires, détruisit tous les royaumes et les places fortes des elfes et des hommes du Beleriand, on dit qu'ils furent réduits à quelques familles, femmes et enfants pour la plupart, dont certaines seulement trouvèrent à rallier les derniers refuges aux bouches du Sirion. Dans les premiers temps, les Druedaines avaient rendu de grands services aux gens parmi lesquels ils vivaient, et ils étaient très recherchés, mais rares furent ceux d'entre eux qui consentirent à quitter les terres des gens de Aleth. Ils possédaient une habileté singulière à traquer les créatures vivantes, quelles qu'elles soient, et à leurs amis, ils enseignaient leur savoir tant qu'ils le pouvaient. Mais leurs élèves ne les pouvaient égaler, car les Druedaines faisaient usage de leur odorat tel des limiers en chasse, mais ils avaient aussi la vue très perçante. Ils se vantaient de pouvoir sentir un orque dans le vent de plus loin que ne le pouvaient apercevoir les autres hommes, et de les pister à l'odeur des semaines durant, à moins qu'une eau courante vienne brouiller leurs traces. Leur connaissance de tout ce qui pousse en terre était presque aussi étendue que celle des elfes, mais ce savoir ne leur venait pas d'eux. Et on dit que s'ils s'établissaient en une contrée nouvelle, il leur fallait très peu de temps pour s'instruire de tout ce qui y croissait, du plus grand au plus ténu, et pour dénommer tout ce qui leur était nouveau, distinguant ce qui était vénéneux de ce qu'ils pouvaient manger sans crainte. Avant de rencontrer les Eldar, les Druedain, comme aussi bien les autres Atani, ignoraient toute forme d'écriture. Mais ils ne devaient jamais apprendre ni les runes, ni les autres lettres des Eldar. Leur propre système d'écriture n'alla jamais plus loin qu'un ensemble de signes, fort simples pour la plupart, qui leur servaient à marquer les pistes et donner certaines informations ou mises en garde. Ils possédaient déjà, semble-t-il, dans le lointain passé, quelques menus outils de silex, grattoirs et couteaux, qu'ils utilisaient encore, bien que les Atani aient eu connaissance des métaux et du travail de la forge avant leur arrivée en Beleriand. Mais on avait peine à se procurer du métal, et les armes et outils forgés coûtaient très cher. Toutefois, une fois en Beleriand et au contact des Eldar, mais aussi grâce au développement du commerce avec les nains des Ered Lindon, ces objets devinrent d'usage courant, et les Druedain montrèrent un rare talent pour graver le bois et la pierre. Ils possédaient déjà le secret des pigments que l'on tire principalement des plantes, et ils dessinaient des images et des motifs sur le bois et sur les pierres plates. Et parfois, sur du bois noueux, ils taillaient des visages qui leur arrivaient de peindre. Mais lorsqu'ils disposèrent d'instruments plus tranchants et plus solides, ils se plurent à sculpter des images d'hommes et d'animaux en guise de jouets ou d'ornements, et parfois même de grandes figures auxquelles les plus habiles d'entre eux donnaient forte semblance de vie. Et à l'occasion, ces figures assumaient des formes singulières ou fantastiques, voire terrifiantes. Et quand ils mettaient leur talent au profit de leur sombre humour, il leur arrivait de façonner des figurines d'orques qu'ils plaçaient ensuite aux frontières, silhouettes modelées en train de se sauver à toutes jambes du pays en hurlant de terreur. Et les Druedain se sculptaient aussi eux-mêmes et plaçaient leur image à l'orée des pistes et au tournant des sentes forestières. Et ils les nommaient « pierres de garde ». Et les plus remarquables de ces pierres de garde avaient été placées à proximité des passages du Teiglin, représentant chacune un Druedain, plus grand que nature, pesamment accroupi sur un orque mort. Ces représentations étaient bien plus qu'une insulte jetée à la face de l'ennemi, car les orques les craignaient terriblement, les croyant doués de toute la malignité des Ogorhai, ainsi dénommaient-ils les Druedain, et capables de communiquer avec leur créateur. Aussi osaient-ils rarement les toucher et ne cherchaient pas même à les détruire. Et à moins de se trouver en force, lorsqu'ils rencontraient une pierre de garde, ils faisaient demi-tour et ne poussaient pas plus avant. Mais parmi les pouvoirs de cet étrange peuple, le plus remarquable peut-être était leur capacité de préserver, des jours et des jours durant, un silence et une immobilité absolue, assis jambes croisées, les mains sur les genoux ou dans leurs girons, les yeux clos, ou fixés sur le sol. Et voici à ce propos une légende qui se disait parmi les gens de Haleth. Un beau jour, un des plus habiles des drougues tailleurs de pierre façonna une figure à l'image de son défunt père et il la plaça sur le sentier à proximité de leur demeure. Puis, s'assit près de la figure de pierre et se plongea en une profonde remémoration silencieuse. Peu de temps après, un forestier vint à passer en route vers un village lointain, et apercevant deux drougues, il s'inclina et leur souhaita le bonjour. Mais il ne reçut point de réponse, et resta planté là un instant, consterné, les considérant attentivement. Puis, il se remit en chemin, se disant « Ce sont gens très habiles à travailler la pierre, mais jamais n'ai-je vu de statue qui paraissait à ce point vivante. » 3 jours plus tard, il revint, et de lassitude, s'assit en s'adossant à l'une des figures. Et sur ses épaules de pierre, il jeta son manteau pour le faire sécher car il avait plu. Mais à présent, le soleil brillait avec ardeur. Et il s'endormit. Mais un peu plus tard, il fut réveillé par une voix échappée de la figure dans son dos.
« J'espère que tu es bien reposé maintenant, » dit la voix. « Mais si tu veux faire encore un somme, je te prie de t'appuyer contre l'autre statue. » car il n'aura jamais plus besoin de s'étirer les jambes, et je trouve ton manteau trop chaud en plein soleil. »
On racontait que les Druédaines demeuraient souvent assis comme cela dans des moments de chagrin ou de deuil, mais parfois aussi dans le plaisir de la réflexion ou encore lorsqu'ils ourdissaient quelques plans. Mais ils usaient également de cette immobilité lorsqu'ils montaient la garde, car ils se postaient là, debout ou assis, dissimulés dans l'ombre, et bien que leurs yeux parussent clos ou leurs regards fixes et absents, rien ne passait ou n'approchait qu'ils n'aient repéré et retenu. Si intense était leur secret de vigilance, que tout intrus la prenait pour une menace hostile et s'écartait terrifié avant même d'avoir reçu avertissement. Mais qu'une créature mauvaise passât outre, il signalait son approche par un sifflement strident, douloureux pour qui l'entendait de près, mais qui résonnait fort loin. Les gens de Haleth estimaient fort les services rendus par les Druédaines en tant que sentinelles en temps de danger. Et lorsqu'ils n'avaient pas de telles gardes en chair et en os, ils disposaient aux abords de leur demeure des figures à l'assemblance des Druédaines, et façonnées à cette fin par eux, convaincus que ces statues de pierre détenaient un peu de la force menaçante qui habitait les gens de ce peuple. Et pour dire vrai, s'ils n'en portaient pas moins amour et confiance aux Druédaines, bien des gens de Haleth leur attribuaient de mystérieux pouvoirs magiques. Et parmi leurs contes merveilleux, plus d'un relate de telles choses. L'un d'eux a été rapporté comme suit.